théâtre, on remettait nous ça. La Java me reste là. Plus je vais, plus va la Java.
Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence aujourd'hui, 14h, mon dieu, et 4 minutes, mais c'est pas possible, en ce mercredi 30 novembre 2016, pour l'émission numéro, laquelle est-ce, 112, 113, je ne sais plus, nous ne parvenons pas à commencer, alors c'est pas très grave, j'en veux beaucoup au Panorama Hebdo, mais on va régler ça, et puis promis, la semaine prochaine, nous commencerons de manière très ponctuelle, vous verrez ça, à 14h pile, l'émission, comme toujours, dure jusqu'à 15h, et nous recevons aujourd'hui un invité, comme toujours également, non, on avait manqué à cette règle il y a cela 2 semaines, donc un invité aujourd'hui, David Ayala. Peintre, enfin disons, comédien bien entendu, mais il incarne le peintre Carpetta dans la pièce Tableau d'une exécution qui a commencé il y a déjà de cela 15 jours, le 15 novembre, et ça continue, donc c'est pour ça que nous le recevons aujourd'hui. Il vous reste encore, mon dieu, un paquet de représentations, un paquet de dates, à peu près une dizaine, puisque ça se terminera la semaine prochaine, d'ailleurs ce mercredi, le mercredi 7 décembre, c'est à 20h en semaine, 16h le dimanche, et relâche le lundi, donc cet invité, ce David Ayala, comédien, acteur français, montpelliérain notamment, bref, va tout évoquer sur lui dans une première partie d'émission comme d'habitude, et puis sur cette pièce dans une deuxième partie d'émission, et même, oui, il nous l'a promis, il parlera aussi un peu d'une pièce à venir en toute fin de saison au Célestin. Il s'agira de Le Vent se lève, du mardi 6 au samedi 10 juin, mais on en parlera plus précisément. Nous commençons avec de la musique, extraite de la compilation des Inrecuptibles. C'est le titre est Her, tout court. C'est extrait de l'album, extrait de l'EP Tape. Et en fait, non. Le nom de l'album, c'est Her. Ça veut dire son en féminin. Son quoi? Il s'agit de Five Minutes. Est-il question de Galaxia, la peintre dans la pièce, le tableau d'une exécution? Écoutez, c'est à voir. Nous écoutons ce premier titre et nous continuons ensuite avec David Ayala jusqu'à 15h. Vous nous écoutez sur le 102.2 de la bande FM à Lyon ou bien sur radiocanu.org si vous le faites sur Internet.
All I need is 5 minutes if you can see the signs. All I need is 5 minutes if you read between the lines. One for the eyes and one for the voices. One for the touch, one for the soft grin. And then the kisses. And then the kisses. All I need is your look to hang my imagination. All I need is your view to picture your position. We could get away, ride horses, sail on the bay, drink from the sources, and then the kisses. Mistakes don't regret.
effect. One hit of a cigarette, mistakes don't regret. All I need is 5 minutes, like a drug with side effects, like a ride on a rocket, the love don't spend. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes.
Et voilà, tout ce dont j'ai besoin, c'est 5 minutes, c'est ce que chante le groupe Her, H-E-R, son, mais son au féminin, ça peut-être, quoique non, ça c'est pas... Enfin bref, c'est un groupe extrait de... ce titre se trouve sur la compilation en automne de 2016, premier volume des Inoccupables. C'était en vente début novembre. Est-ce que ça se trouve encore dans les kiosques? C'est possible. Vous verrez, on écoutera peut-être tout à l'heure autre chose de cette compilation. Gérald n'est pas là, mais Isa, tu es bien là?
Salut tout le monde.
Bonjour Isa. Et nous avons avec nous donc David Ayala, que j'ai annoncé en début d'émission. Bonjour David.
Bonjour.
Écoutez, ce que je vais faire, c'est vous laisser la parole pour que vous puissiez vous présenter. D'abord, c'est plutôt David Ayala dans une première partie d'émission. Puis ensuite, ce sera davantage Carpeta, ce peintre que vous incarnez dans... Est-ce que j'aurais fait le lapsus tout à l'heure? Tableau d'une exécution. Je ne sais pas si j'ai pas lancé tableau d'une exposition. Non, c'est bien tableau d'une exécution. Une pièce d'Howard Barker, je l'avais même pas indiqué. Fin 80, je crois, début 90, il me semble.
Oui, c'est ça.
Mise en scène par Claudia Stavisky. Ça, je l'avais pas annoncé. C'est au Théâtre des Célestins. Je sais pas si j'avais bien dit Théâtre des Célestins également. En revanche, les dates, oui, je l'avais fait. Ça a commencé le 15 novembre et ça se termine le 7 décembre, mercredi prochain. C'est à 20h en semaine. Donc, auditeurs, ce soir, à 20h, vous pouvez vous y rendre. Demain également. Jusqu'à mercredi prochain. Attention. Dimanche c'est à 16h et lundi c'est relâche. Donc dans un premier temps David Ayala, ensuite Carpeta et puis tout à l'heure peut-être le metteur en scène qui reviendra au Célestin. Dans la Célestine ce sera... Dans la grande salle.
Oui, en juin, voilà.
Du mardi 6 au samedi 10 pour cette pièce Le vent se lève avec différents textes. Il y a notamment un texte de Guy Debord je crois, ou quelque chose de Pier Paolo Pasolini. Mais commençons par David Ayala. Qu'est-ce qui vous a emmené, qu'est-ce qui vous a mené, qu'est-ce qui vous a fait, qu'est-ce que vous avez amené au théâtre certes, et puis ensuite amené de Montpellier à Lyon. Lyon, ça n'est que temporaire pour la pièce.
Lyon, ça fait plusieurs fois que je séjourne en fait à Lyon. Hein, je connais bien. D'abord parce que j'ai déjà travaillé avec Claudia Stavisky au Célestin. Il y a une sorte de complicité, artistique, humaine aussi évidemment. Sur une pièce qui s'intitulait il y a deux ans, En roue libre d'une auteure anglaise. Mais je disais à un camarade, je disais c'est curieux, ça fait 3 ans que je viens au Célestin et c'est à chaque fois trois auteurs anglais. Il y a eu Penelope Skinner, qui est une jeune auteure de 34 ans, qui a écrit un très beau texte qui s'intitule En roue libre. Enfin, en anglais, c'est Village Bike. Et c'était sur la sexualité féminine, le désir féminin, sur l'émancipation, sur un cri de révolte comme ça, de féminin, très fort.
C'est intéressant. Vous parlez de quelle pièce, la table d'une exposition, c'est
non,
ça
non, non,
une
non,
exécution. Non, mais je sais très bien. Mais je veux dire, il y a des thématiques.
Ah hein, oui.
Je plaisante. Mais
voilà,
il y a des choses proches entre la pièce de Howard Barker et celle-ci.
Ouais, tout à fait. Et c'était en début 2015. Ensuite, l'année dernière, je suis revenu avec une autre metteur en scène femme, donc Cécile Marmouget, qui avait remonté une pièce de Mark Ravenhill qui s'intitulait Piscine Pado, voilà. Et très contemporaine aussi, c'était sur les artistes new-yorkais, sur la photographe Nan Goldin, et là c'était le rapport des artistes et de l'institution, des artistes et de, avec l'argent et la célébrité, et c'était des histoires d'amitié aussi, voilà. C'est sur des collectifs de performeurs new-yorkais. Et notamment sur la vie de cette photographe qui était devenue célèbre en, c'était un peu polémique, hein, en photographiant le trash, quoi. Voilà. Et donc cette année, donc Howard Barker, qui est un auteur plus âgé, plus expérimenté, puisque je crois qu'il a 70 ans, il a écrit une bonne cinquantaine de pièces, je crois. En fait, et il est quand même tout de même très reconnu, pas bien reconnu apparemment en Angleterre. Il vit à Brighton. Il a une espèce de laboratoire d'acteurs et il est peintre aussi. C'est très important. Il est autant peintre que auteur en fait. Voilà. Il a imaginé quelque chose qu'il a appelé le théâtre de la catastrophe. Qui passe par plein de prismes, plein de couleurs, plein de différents endroits de l'écriture dramatique, mais c'est très puissant. Voilà, c'est un auteur qu'on n'a pas de mal à comparer vraiment, enfin pas comparer, mais on dit qu'il y a beaucoup de Shakespeare dans, c'est comme s'il y avait une transposition contemporaine de certaines situations shakespeariennes, quoi, dans l'écriture de Barker, vraiment. Voilà, je crois qu'il y a deux grands auteurs, enfin les grands auteurs, les anciens un peu en Angleterre, c'est Barker et Edward Bond. Voilà. Et ils s'opposent tous les deux, en fait. Ils ne s'apprécient pas du tout. Et ils s'opposent pour différentes raisons. Mais les deux sont des très grands auteurs. Voilà.
La dernière pièce que vous jouez, elle est finalement assez différente quand même des deux précédentes dont vous avez parlé. Parce que entre le désir féminin et la volonté de s'émanciper des artistes américains et cette pièce-là, il y a quand même une. Bon, c'est quand même assez différent, quoi.
Il y a
pas vraiment de rapport, quoi.
Non, parce que la Barker, il a vraiment écrit sur la peintre Artemisia Gentileschi, voilà, qui a vraiment vécu donc au 16e et qui a été une grande peintre très reconnue, enfin qui est là. Vous pouvez voir ses tableaux partout, enfin en tout cas si vous tapez sur internet vous allez tomber sur ses tableaux, et c'est une grande peintre italienne donc de cette époque là et Barker s'est inspiré de cette femme qui peignait vraiment notamment beaucoup de tableaux sur la décapitation de Judith et Holofernes par exemple, et des tableaux vraiment assez violents en fait visuellement sur la thématique, et il s'est inspiré de son destin parce que le père de Artemisia était très connu, voilà, très très connu, c'était un peintre vénitien très connu, et donc voilà, c'est cette époque là de la grande époque de la peinture vénitienne etc italienne, et elle a eu la particularité de faire des sujets très durs, très forts, très très polémiques, et c'est pour ça qu'il s'est inspiré d'elle et il a transposé cette situation dans une situation politique, quoi. Voilà, c'est-à-dire le Doge de Venise, la République de Venise commande au peintre. C'est le rapport entre l'artiste et le politique. Voilà, en fait, c'est ça. Et il commande à cette peintre de peindre un immense tableau de 30 mètres sur la bataille de Lépante. Qui a eu lieu en 15. Alors c'est vachement intéressant parce que je vais vous laisser poser des questions.
Mais là c'est terrible, on triche là, Isa. Normalement la première partie, après les règles ne sont pas non plus écrites dans le marbre, mais la première partie, non mais justement le truc c'est que c'est magnifique, la question que tu posais pouvait amener à cette chose là, la première partie de l'émission, cahier des charges, non justement rien n'est écrit, on cherche plutôt à essayer de faire parler l'invité. Donc là vous êtes en train d'évoquer non pas tant Carpetta le personnage, mais vous évoquez beaucoup cette pièce. Moi j'aimerais qu'on reste sur David Ayala par exemple, justement ce que tu demandes Isa, ça aurait pu conduire à cette réponse peut-être. Quel point commun entre ces différentes pièces que vous évoquiez ? Ben, le point commun, c'est quand même vous. Donc, vous qui avez joué donc, dans cette pièce du désir féminin, disiez-vous, dans actuellement le tableau d'une exécution. Donc, vous, David Ayala, quel comédien êtes-vous ? Metteur en scène, on le dira peut-être en fin d'émission. Quel comédien et surtout, peut-être même, je vous l'avais annoncé, hein, je crois, hors émission, je vous avais dit la chose. Comment êtes-vous arrivé au théâtre ? Qu'est-ce qui vous a mené ? Parce que là, on a quitté Montpellier, on l'a évoqué, non, je crois que c'était en antenne également. Vous êtes natif de Montpellier, vous êtes passé par... j'ai mis une biographie sur le blog qui est extraite du théâtre des Amandiers, de Nanterre. Mm-hmm. Ils vous ont fait comme ça, ils brossent un peu votre portrait. Donc, êtes-vous également passé par là-bas ? Êtes-vous parti de Montpellier pour arriver à Nanterre-Paris, ensuite vous passez à Lyon ? Quoique non, Lyon ici, vous l'avez dit, vous êtes certes revenu, mais vous n'avez pas d'attache ou de...
Non, c'est-à-dire moi, je suis originaire du sud, hein, Arles et Montpellier en fait. Voilà.
Sans accent, ça c'est beau, voilà, c'est bien voilà. Ça.
et donc je suis resté à Montpellier pour les études, justement le théâtre, le conservatoire, etc. Et ensuite je suis parti à Paris. Et je suis resté 20 ans à Paris. Et maintenant me voilà revenu à Montpellier. Je suis revenu dans cette région, voilà, pour y vivre.
C'est un hasard qui vous a reconduit à Montpellier, ou c'était une volonté?
C'était un choix. Moi, je dirige une compagnie depuis, ça va faire 20 ans. On va fêter les 20 ans de la compagnie en 2017. Donc ça, le vent se lève, c'est le 15e spectacle de la compagnie. Donc il y a une vraie vie, une vraie existence de ça, donc aussi d'une forme de travail collectif. Une forme d'implantation dans le territoire là-bas, qui maintenant est un grand territoire puisque c'est deux régions en fait avec Midi-Pyrénées, et voilà, donc en fait c'est ma région, quoi, voilà. C'est et Paris, ben j'y suis resté 20 ans pour pratiquer mon métier, parce que mine de rien, ben ça fait 26 ans, quoi, en fait, que je l'exerce. Et parallèlement, j'ai eu la chance de faire à la fois l'acteur et d'être metteur en scène, voilà, de diriger une compagnie. Donc ça veut dire que ça inclut en fait complètement et fondamentalement plusieurs métiers. C'est-à-dire que vous êtes quand même aussi quelque part dans le métier de la production. Vous êtes dans le métier aussi de la diffusion, curieusement. Et puis voilà, de la fabrication de spectacles vivants, quoi. Voilà, de créer, diffuser du spectacle vivant. Et après, il y a des orientations plus ou moins, disons, vérifiables, hein, dans le travail, selon les compagnies. Selon nous, ça s'est orienté sur globalement sur des textes non dramatiques. Et c'est des spectacles qui essayent de mettre en scène notamment des textes qui ne sont pas des pièces de théâtre, soit des paroles de la poésie, soit de la philosophie, soit des écrits politiques, soit tout ce qui n'est pas théâtre. Après, j'ai monté des pièces, mais principalement des choses non théâtrales. Voilà. Ça s'est avéré comme ça.
Vous parliez de votre compagnie, c'est quoi le nom de votre compagnie?
La compagnie, elle s'appelle La Compagnie La Nuit Remue. Voilà. Elle s'est tirée d'un recueil du poète Henri Michaux.
Des poèmes, c'est ça, oui.
Ouais. Et bon, parce que j'ai mis en scène deux spectacles autour d'Henri Michaux que je considère comme un très très grand, très très grand écrivain, très très grand poète, très très grand auteur, voilà.
Alors c'est très différent ce que vous faites, le comédien d'un côté,
c'est très différent.
Le metteur en scène de textes qui ne sont a priori, ouais. Vous le dites, pas
non, très, très différent,
dramatique,
c'est...
théâtraux, et puis administratif
les gens,
aussi,
ouais, enfin, les gens
direction,
qui...
financement, tout ça, vous cherchez des...
Ouais, c'est comme ça, ça s'est passé comme ça, on sait pas trop pourquoi. Après, quand on se lance dans des projets, on se dit, bon, bah, pour les faire, il faut trouver de l'argent, ouais. il faut s'acharner, il faut pouvoir exister là, dans ce paysage-là. Je vous avoue aujourd'hui que le désir a considérablement, enfui un peu, on va dire, par rapport à tout ce qui se passe, à la conjoncture, au métier même, aux arcanes de ce métier, à la difficulté de pouvoir faire ces choses-là. C'est pas grave, on les aura faites, et puis voilà, on est très heureux. Moi, je suis très heureux d'avoir fait ce qu'on a fait, voilà, et c'est super, c'est vraiment super. Après, c'est aussi se dire, bon, moi j'ai eu la chance aussi de pouvoir vivre de mon métier, de manière constante, et ça c'est plutôt très bien, et je n'ai pas à me plaindre de la situation personnellement, voilà.
Vous parliez de vos débuts à Montpellier, qu'est-ce qui vous a amené vers le conservatoire en fait? À quel moment vous avez dit j'ai envie de faire ça?
Moi, c'était un peu miraculeux, parce que c'était en fait, je n'étais pas du tout, il n'était pas prévu du tout que je fasse ce genre de choses, voilà, parce que je le faisais, bon, c'est pas très intéressant, mais de parler de soi comme ça, mais
je faisais... Vous aspiriez à quoi avant?
Je faisais vraiment du sport. Je faisais, j'étais dans le sport. Je faisais beaucoup de sport. Je me destinais à quelque chose qui était en rapport avec le sport.
Athlétisme comme sport. Équipe.
Je pratiquais de l'athlétisme. Et notamment le décathlon. Voilà. Donc c'était voilà, c'était très 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 comment dire contraignant.
Exigeant. Ouais.
Exigeant et tout ça. Et ça, moi, le sport m'a toujours finalement apporté pour le plateau, pour la scène, pour la pratique de ce métier, énormément. M'a apporté énormément, c'est-à-dire toujours ça reste dans le corps, voilà, ça reste dans le corps, voilà, c'est indéniable. Quand vous avez pratiqué pendant 17 ans, moi j'en ai fait pendant 16 ans exactement, de manière constante, quoi, quasiment constante, mais franchement après ça reste.
Et vous étiez plutôt dans quelle spécialité au niveau de l'athlétisme?
Alors moi j'étais...
le décathlon c'est tout, non?
Vous faites... C'est 10 épreuves, ouais, c'est 10 épreuves, c'est course, saut, lancer. Ouais. Moi j'étais plutôt bon dans les sauts, voilà. D'accord. J'étais bon en longueur, curieusement...
Ah, sur la longueur. Ouais.
Curieusement en hauteur, je dis ça aujourd'hui par rapport à ma physionomie, et également au saut à la perche. J'étais bon dans les sauts, voilà. J'étais très moyen dans les sprints, et j'étais pas trop mal... En 110 mètres haies.
Et alors, la question, il faut la reformuler, hein, Isa, c'est donc, et qu'est-ce qui a provoqué le grand saut? Comment est-ce passé?
En fait, tout simplement, c'est à cause d'une fille, tout simplement, comme ça arrive souvent.
Et
qui m'a. C'est idiot, hein, mais.
Ah non, pas du tout.
Non, mais voilà, et puis après, des copains qui m'ont entraîné là-dedans, qui m'ont dit, mais, c'était à l'école aussi, c'était au lycée, hein, on a eu la chance d'avoir un assistant, vous savez, un assistant anglophone, c'était un Australien, et il nous a fait faire de la radio, d'ailleurs, c'est très intéressant, il a fait pendant un an, on a fait une émission de radio, on était jeunes, on avait 17 ans, 18 ans, et c'était une émission sur le rock, et c'était très, très fort. Vraiment. Et parallèlement, il nous faisait faire du théâtre. Voilà. Et moi, j'ai découvert ça par ce biais-là, en fait. Moi, je lisais pas de livres, j'étais pas intéressé par la culture, ça m'intéressait pas du tout. Je savais même pas qu'on pouvait faire du théâtre son métier, en fait. Vraiment. C'est pour ça que je dis que c'est miraculeux pour moi, mais j'habitais à Arles, c'est à 40 km d'Avignon, je ne savais pas du tout que le Festival d'Avignon existait. Parce que je ne vivais pas dans un monde de la culture, voilà, tout simplement. Et donc j'ai finalement découvert ça, et puis de fil en aiguille ça s'est fait comme ça, quoi. Après on m'a dit tiens c'est bien, on pense que tu as des capacités pour ça. Est-ce que tu voudrais faire le conservatoire de Montpellier, parce que c'était le conservatoire de région là-bas. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et puis c'est parti.
Est-ce que c'est pas peut-être un peu trop difficile de passer de quelque chose de vachement individuel, parce que finalement l'athlétisme c'est un sport assez individuel.
C'est individuel, mais il y a une dimension collective dans le club, etc.
Peut-être plus voilà collectif, où on doit plus s'inscrire dans un groupe.
Ouais, c'est vrai. Il y a ça. Il y a aussi un côté individuel dans la pratique artistique. Je trouve qu'il y a un côté individuel aussi, et parfois très individualiste aussi, même si on se dit que on est dans des collectifs, etc., etc. Alors ça c'est vrai que le phénomène, par exemple, de la troupe. Moi j'ai eu la chance de commencer dans des vraies troupes, des vraies troupes, notamment à la cartoucherie de Vincennes, etc., etc. Et donc j'ai découvert ce milieu-là à travers le phénomène de la troupe, et ça m'a vraiment ça recrée une famille, en fait. Il y a une sorte de famille. D'amitié, enfin de vivre ensemble, etc., etc. Tout seul, quand je me rappelle, quand j'étais arrivé à Paris, donc il y avait après une autre école qui était j'avais fait l'école théâtre école du passage avec dirigée par Nils Arestrup à l'époque. C'était une super école, hein, c'était une grande école d'où beaucoup d'acteurs sont sortis, et je voyais quand même que c'était l'époque où vraiment les gens couraient les castings, comme toujours d'ailleurs, mais il y avait ce côté-là un peu, il fallait se faire voir, il fallait se faire connaître, etc., etc., ce qui est normal, hein. Et c'est vrai qu'il y avait une dimension artistique que je même si elle existait complètement, mais qui était un peu recouverte par le côté un peu superficiel, je dois dire, sur le côté de l'image, quoi, de son image. On avait des books, je sais pas quoi, on se faisait des photographies. Bon, ça existe toujours, hein, mais c'est voilà. Après, quand on commence vraiment à travailler, je parle de la scène, hein, même du cinéma ou de la télé, hein, que j'ai pratiqué aussi. Après, on se pose plus trop la question de savoir est-ce qu'on va plaire à un tel ou un tel. Après, on fait le métier, quoi. Voilà, c'est tout.
Et est-ce que la radio vous a aidé dans l'aspect peut-être groupe, créer des liens avec des personnes?
La radio, au départ, oui. Ah oui, complètement. Complètement. Complètement, ouais. Mais ça a été vraiment que ce soit à Montpellier, et même lorsque je suis revenu à Montpellier où on a créé la compagnie, hein, donc c'était en 97, hein, c'est ça, ouais, 97. Donc.
Ah bah oui, si, ça fait 20 ans.
Voilà. Et donc puis on a créé les premiers spectacles, qui ont commencé à tourner, puis ça s'est enchaîné, il y a eu vraiment une vraie vie, quoi, une effervescence, quoi, qui s'est créée là. Et formidable, hein, c'était super, hein, c'était vraiment. Et je dis pas que c'est du passé, hein, mais je dis que ça a changé, voilà, que c'est de toute façon, c'est un autre monde, hein, on est passé dans un autre monde, quoi. Je crois, hein, c'est voilà.
Vous trouvez qu'aujourd'hui c'est plus difficile de créer peut-être des groupes ou de créer des liens avec
les
gens?
Oui. Ben, il y a eu une période, je crois, il y a eu une période assez faste entre guillemets pour les compagnies. Je me rappelle dans Languedoc-Roussillon, dans le sud, c'était énorme. Il y avait une très très grande profusion de compagnies, d'artistes, etc., etc. Aujourd'hui, les gens sont c'est le laminoir, hein. C'est au niveau, je dis pas si c'est bien ou si c'est pas bien, je dis simplement qu'il y a eu une baisse énorme donc par exemple des subventions, mais ça, même si on ne vit pas que avec les subventions, en tout cas il y a des choix politiques qui ont été faits et qui ne sont plus ceux d'avant, c'est-à-dire là il y a des lieux qui ferment, il y a des théâtres qui ferment, il y a des compagnies qui mettent la clé sous la porte, et voilà, c'est la réalité, hein, c'est pas
et le public, là, la fréquentation, vous sentez que ça a baissé ou en fait non, pas tant que ça non plus, pas,
moi,
pas vraiment.
Je vous dis ce qui a vraiment changé, c'est qu'il y a environ 15 ans, il y avait par exemple sur la scène Montpellier-Rennes autour, en région, il y avait une vraie belle diffusion, comment dire, structure de diffusion de ce que l'on appelait avant le théâtre classique contemporain, de textes, de compagnies, que ce soit même des sans texte, etc., etc. Aujourd'hui, si vous ouvrez les programmes de la ville, et je pense que c'est à Paris, c'est pareil, il faut reconnaître que un très grand nombre de petits lieux se sont ouverts, mais ce sont essentiellement des cafés-théâtres. Voilà. Ce sont essentiellement des lieux où se produisent les humoristes. Et je ne dis pas où des pièces de, comment on appelle ça, de
stand-up, non,
de café-théâtre et de stand-up. Ouais. Voilà. Moi, je n'émets pas de jugement par rapport à ça. Je dis simplement la constatation fait que on est passé en 20 ans d'une très grande diffusion de théâtre dit de texte, de compagnie, et puis il y avait des artistes internationaux, il y avait des artistes nationaux, il y avait des centres dramatiques, etc., etc. Et aujourd'hui, que ce soit à Paris, même à Lyon, je connais moins, mais Marseille, Montpellier et même Toulouse, en moindre proportion, eh bien, mais Paris c'est évident et Montpellier c'est très évident. Les trois quarts ce sont des théâtres, des cafés-théâtres. Voilà, c'est une évidence, indéniable. Voilà, c'est la loi du genre. C'est le goût aussi du public. C'est le goût du temps, de l'époque. C'est aussi par Internet et la télévision et la multiplicité des formes de diffusion grâce à Internet. Eh bien, il y a cet accès tout de suite immédiat de n'importe qui peut faire. D'ailleurs, ça me fait penser à
Rémi.
Rémi Gaillard.
On peut dire. Hein, c'est ça, oui.
Voilà.
N'importe qui peut faire n'importe quoi. Voilà, non, c'est voilà. Quoi.
Non, mais c'est pas. Je dis pas ça. Je veux pas, c'est pas méprisant, parce qu'en plus j'ai récemment fait un spectacle qui part vraiment du stand-up, et c'est pour moi le stand-up est une grande école. Je ne dis pas que c'est pas bien ou moins bien ou mieux, je dis que simplement
il y a une multiplication. Que ça tourne un peu en rond. Vous trouvez pas que le stand-up ça commence à tourner en rond depuis quelques années, que c'est souvent les mêmes?
Mais je connais moins. La seule chose que je peux retrouver, que je peux constater, mais ça c'est vraiment, je le constate avec, je dois avouer avec un peu d'amertume, c'est que la télévision a promu ce que j'appelle la dictature de l'humoriste. C'est-à-dire, à la place de par exemple de textes forts qui permettaient de développer une forme de pensée critique, par exemple, une forme de pensée critique, eh bien, on a maintenant la dictature de l'humoriste.
Les vannes.
Voilà, les vannes, les blagues, bon, c'est bien, hein, c'est chouette, mais moi, je ne crois pas que l'écriture de l'humoriste soit subversive. Pas du tout. Voilà, je ne le crois pas. Alors, elle est subversive, mais elle est complètement intégrée par le système.
Vous pensez pas que quand les humoristes essaient d'être subversifs,
Non, pour moi, ils ne le sont pas.
Je crois que Gérald nous écoute et dit, si tu nous écoutes, eh ben, j'espère que tu regrettes bien de ne pas être là, parce que alors, la question de la subversion, la question de la, même, est-ce qu'un ce substantif existerait, la subversivité, enfin bref, je pense, je suis assez convaincu que...
La subversion,
que... Oui, enfin bref, ça l'aurait beaucoup intéressé. Il n'est pas là. Il écoute la radio, m'avait-il dit, et donc c'est très bien, il va pouvoir profiter de cette pause, parce que là, c'est très bien, Isa, c'est magnifique, David, nous partons sur des propos vraiment intéressants, vous reviendrez en fait, j'étais en train de me dire, vous allez évoquer tout à l'heure, vous évoquerez Le Vent se lève en fin d'émission, mais moi je crains que la fin d'émission arrive d'ici peu, donc il faudra revenir, on reviendra, vous reviendrez, vous serez de retour au mois de juin pour parler de, on redéveloppera d'autres thèmes.
Nous allons de Barker et de...
Voilà, nous allons parler de cette pièce, et donc petite pause, parce que quand même là, je vois que vous en profitez à l'instant pour boire un peu, je vais vous laisser boire de l'eau, auditeur, je vous sur Carpet, David Ayala ne boit que de l'eau. On va écouter Tinariwen parce que c'est bien, parce que c'est un groupe de musique, c'est une sorte de collectif originaire de Tamanrasset en Algérie. Ouais, je suis sur leur page Wikipédia, c'est pas du jeu. Et enfin bref, on écoute cet extrait de la compilation toujours des Inrecuptibles, l'extrait Tiwayen qui vient de l'album L1 qui va sortir. Cela va nous permettre de reprendre un peu nos esprits et de davantage parler. Vous l'avez commencé, je te remercie Isa, c'est la question que tu avais posée un peu tout à l'heure. Vous avez déjà commencé, David Ayala, à parler de cette pièce, tableau d'une exécution donnée actuellement au Célestin jusqu'à mercredi prochain, le 7 décembre. Et il faudra qu'on évoque les autres comédiens qui sont avec vous. Là. Tu parlais, je crois, Isa, d'un collectif, le théâtre. Christiane Coandi est sur scène, Geoffrey Carré également, Eric Caruso. Il y a aussi, enfin bref, Simon Delétang et d'autres comédiens encore. Petite pause, Tinariwen, et nous reprenons dans Spectaculaire jusqu'à 15h avec notre invité et sans Gérald. Hein, Gérald, j'espère que tu regrettes bien de ne pas être venu aujourd'hui. Auditeur, nous reprenons, 14h38. Est-ce Pascal que j'aperçois pour le blues des canuets? Hey, Pascal, patiente, hein, il n'est pas du tout 15h, donc il y a encore le temps. Auditeur, nous reprenons, toujours avec Isa, toujours avec David Ayala, sans Gérald, qui n'est pas là. Tant pis pour toi, Gérald. Et donc là, maintenant, plus particulièrement, nous allons évoquer cette pièce, tableau d'une exécution, dont vous avez déjà commencé à brosser quelque peu les grandes lignes. Une grande figure dans cette pièce, la figure de Galaxia. Une femme peintre qui, donc, en 1570, 71 peut-être plutôt, puisque la bataille de Lépante vient d'avoir lieu, on lui passe une commande d'un grand tableau. Je crois qu'il est question également d'une centaine de mètres carrés, c'est ça, je crois.
Vous, ouais, parlez,
vous avez évoqué une trentaine de mètres.
C'est ça.
Et cette figure de peintre serait inspirée, vous l'avez annoncé, de Artemisia Gentileschi. J'ai pu voir la pièce il y a cela 10 jours. J'ai fait une petite critique sur une petite chronique sur la pièce et j'ai indiqué que les dates ne correspondraient pas pour Artemisia. Enfin, ne correspondraient pas, disons, le personnage, la peintre a existé, mais née en 1593 et décédée, voilà, en 1650, je crois. Donc c'est, voilà, une autre période, puisqu'ici, dans la pièce, on est à Venise. Et en plus, Artemisia s'est davantage déplacée entre les villes de Naples et de Rome. Donc il n'a pas été question de Venise. Enfin, disons si, vous l'avez dit, par la figure de son père. Et donc, on lui passe cette commande. La suite, et puis surtout à vous-même, Carpetta, le peintre, qui ouvre la scène, la pièce.
Donc... on lui fait cette commande, en fait, d'un grand tableau qui évoque, enfin, qui pour peindre cette bataille de Lépante. La bataille de Lépante, elle a eu lieu en 1571. Donc, c'est dans le golfe de Patras, en fait, hein, très exactement. C'est entre, l'Italie et la Grèce, en fait. Et là, c'est une des premières fois où la République de Venise, en tout cas, ce qui est considéré comme l'Occident, repousse d'une manière ultra-violente l'Empire ottoman, en fait. C'est une des premières victoires de l'Occident sur l'Empire ottoman. Et c'est la particularité apparemment de la bataille de Lépante est qu'ils ont utilisé des boulets très sophistiqués, je pourrais pas dire en termes techniques, hein, mais des boulets de canon qui vraiment, c'était vraiment un massacre. Et que fait cette peintre, donc Artemisia, enfin donc Galaxia dans la pièce de Barker? Elle, au lieu de peindre ce que le Doge dit à un moment donné, la gloire ou la gloire des vainqueurs et le mérite de la nation, ou comment on peut expliquer ça, l'État, la splendeur de l'État, la victoire. Au lieu de peindre ça, elle décide, en son fort intérieur, de peindre l'horreur du massacre, en fait. Elle peint la vérité absolue de la guerre, c'est-à-dire les chairs mutilées, les cadavres et les horreurs absolues provoquées par la guerre. Et en fait, elle le fait, parce que c'est une commande, donc c'est vraiment sur les relations entre le politique et l'artiste. Quand le politique, c'est le fait du prince, comment le fait du prince, en fait, le prince commande à l'artiste quelque chose en contrepartie de l'argent, bien sûr. Et quelle est à cet endroit-là la liberté de l'artiste? Que peut-il faire? Que peut-il ne pas faire? Etc. Donc se pose le problème de la censure, se pose dans la pièce le problème. On la fait passer pour folle et on la met en prison. Voilà, en gros, c'est ça. Ça résume un peu le personnage, donc qui est de Galaxia, qui est interprété magnifiquement par Christiane Coendi, qui est une très grande actrice, et qui prend sur ses épaules comme ça la charge de ce personnage qui est omniprésent, hein, dans la pièce, et où Barker dresse un portrait comme ça magnifique de femme. C'est à la fois la femme. Chez Barker, il y a beaucoup de termes emprunté à l'évocation de la sensualité. La sensualité, la sexualité, il y a toujours le recours au charnel, quoi. À quelque chose de très concret, de très physique. Et ça, c'est très fort dans la pièce. C'est très fort. Tout ça pour dire que, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte plein de choses, en fait. Ça raconte la femme, ça raconte les femmes, ça raconte le pouvoir, ça raconte la censure, ça raconte le rapport à l'État, le rapport de l'État avec ses artistes.
Et voilà, c'est
le
ça,
rapport de force aussi.
L'art également, oui.
Et l'art, évidemment. Évidemment, comment représenter le problème de la représentation d'une chose. Donc c'est une pièce d'une richesse, mais vraiment inouïe, quoi. C'est à la lecture, on se disait, c'est fou. Bon, déjà, évidemment, c'est une écriture splendide, hein, vraiment. C'est très très fort.
Dans la traduction, en plus, on peut le signaler, de Jean-Michel Desprats.
Jean-Michel Desprats,
qui est très forte. Qui,
ouais, très belle. Et voilà, il y a une galerie d'une vingtaine de personnages, et il y a 10 acteurs sur scène. Donc, il y a une scénographie, là, dans la mise en scène de Claudia Stavisky, qui est assez imposante, qui est même impressionnante. Sur ce grand plateau là des Célestins, la scénographie est signée Graciela Galán, qui est également une artiste argentine, voilà, avec les lumières de Franck Thévenon aussi. C'est voilà, non, visuellement je crois qu'il y a un vrai questionnement sur l'esthétique et sur comment fait-on pour représenter par exemple l'irreprésentable. Comment fait-on pour représenter, bon, après l'abstraction ou la figuration en peinture, qu'est-ce que ça signifie, etc. Bon, moi je suis pas très calé, mais il n'empêche que voilà, ça brasse tout ça, la pièce, et ça brasse aussi qu'est-ce que c'est qu'être humain réellement. Dans le Barker, il s'interroge vraiment sur ça dans la pièce. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, comment on va se comporter à tel endroit, de telle manière? Et là, curieusement, on se dit, mais quand même, c'est une femme à cette époque. Déjà qu'aujourd'hui, c'est difficile, mais alors à l'époque, on peut imaginer, quoi. C'est incroyable. La confrérie des peintres aussi, la corporation des peintres.
Avec la scène de l'enterrement.
Des artistes, ouais. Comment est-ce qu'on est justement subversif? Est-ce qu'on est polémique? Est-ce qu'on fait un art conventionnel? Est-ce qu'on est pompier? Est-ce qu'on est, voilà, c'est les peintres académiques. Par exemple, moi, je joue le rôle d'un peintre qui est son amant, voilà, qui est l'amant de Galaxia. Et on ne sait pas trop, c'est ça qui est bien avec Barker, c'est que on a l'impression que il est ouvert, en fait. On se dit.
Le personnage de Carpetta?
Ouais. Oui. Et même les
Jésus
autres,
et ses ouailles, combien de voilà. fois a-t-il peint ce tableau?
Lui, il est obsédé par peindre les représentations de Jésus-Christ. Donc, il dit qu'il veut être le meilleur peintre italien du Christ, hein, il le dit. Mais après, on ne sait pas, parce qu'on ne voit pas ce qu'il peint, évidemment.
Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette pièce? Est-ce que c'est le côté transgressif? Est-ce que c'est la représentation? Qu'est-ce qui vous a vraiment le plus...
Alors, d'emblée, c'est l'écriture, ça c'est sûr. L'écriture, elle est forte. Curieusement, elle est très hachée pour les acteurs. C'est des séquences courtes. On n'a pas l'impression qu'on reste sur scène hyper longtemps pour développer une situation. Barker, il a conçu sa pièce comme des tableaux. Des tableaux finalement assez brefs, à part quelques-uns. C'est très curieux, mais ça raconte. Du coup, c'est la juxtaposition de ces séquences qui font que ça raconte l'histoire. Voilà.
Oui, vous dites tableau, enfin, vous dites qu'il y a des tableaux, pourtant c'est au singulier le tableau d'une exécution, mais on pourrait le mettre au pluriel, puisqu'il y a plusieurs, chacune des scènes est presque, comment dire, est très représentative, très, 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 très esthétique. D'ailleurs, il y a cette scène plus ou moins finale du dévoilement du tableau, et on le voit pas. Enfin, comment dire, c'est très fort, cette impression.
Alors, ce qui est fort dans la mise en scène, là, c'est que il y a une proposition, ouais, qui est vraiment forte, qui fait que le spectateur peut vraiment partir dans son imagination, mais par contre, il y a une orientation très singulière. Voilà, je dévoile pas, je dis pas ce que c'est, mais du coup, ça pose aussi la question, est-ce qu'on peut représenter sur une scène de théâtre un tableau de peinture quand on parle de la fabrication de ce tableau? Comment on laisse ouvert l'imagination du spectateur, ou à quel endroit on se situe pour que ça puisse véritablement rester dans l'imagination créative, voilà, créatrice, quoi, du spectateur, et non pas de figer la chose, quoi. Je crois que c'est ça qui m'a plu aussi dans la pièce. Après, ce qui m'a plu réellement, c'est vraiment aussi le choix de Claudia, des interprètes, et la scénographie, je ne savais pas, parce que je ne connaissais pas Graciela, et ça, c'est quelque chose qui se construit de manière collective aussi, et ça s'est construit fragment par fragment, j'allais dire. C'est une pièce fragmentaire, Et quand on met tous les fragments ensemble, ben ça fait une œuvre assez impressionnante. Voilà.
Et une œuvre qui tient, ça marche. Enfin, moi, pour l'avoir vu, pas d'entracte. Ça c'est
ouais,
bien.
Ouais, ouais.
Hop, c'est donné sur toute une durée.
Et ça raconte, bon, c'est un voyage. On voyage vraiment avec elle. On voyage vraiment avec Galaxia et avec le Doge de Venise, le rôle du Doge de Venise qui est tenu par Philippe Magnan.
Philippe Magnan qui est bon.
C'est vraiment un rôle extraordinaire. Hein.
J'ai l'une de ses premières répliques sous les yeux. Je comptais l'évoquer tout à l'heure quand vous avez parlé de la manière de peindre de Galaxia. Il lui dit vos tableaux sus, muscles, articulations, tibias. Personne ne se drape dans vos tableaux. Les personnages s'affrontent. Même les baisers, c'est du muscle. Vous voyez, j'ai des yeux, je regarde, mais je renifle aussi. Je renifle votre toile et elle sent la sueur. Vous me trouvez blessant et je suis un admirateur. Non, non, Philippe Magnan est très bon. Et là, dans cette réplique, c'est bizarre. Tout à l'heure, vous évoquiez les boulets de canon. Je me disais, mais c'est étrange d'entrer à ce point dans les détails. Et en fait, non, c'est important parce que les boulets de canon ont créé des... Enfin, pas créé, mais ont mutilé, ont certainement fait de cette bataille navale une boucherie. Après, bon, donc une boucherie navale. Et c'est important de savoir ça parce que c'est bien la manière de peindre de Galaxia qui est une manière très, 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 très réaliste. Enfin, du moins quelque chose qui même... peut aller jusqu'à l'écœurement.
Alors évidemment, ça pose le problème de la représentation, c'est-à-dire qu'elle est persuadée dans la pièce qu'il faut absolument montrer l'horreur. Et ça, du coup, c'est une vraie question aujourd'hui, c'est-à-dire, ça nous renvoie à la question, je crois. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut montrer? Faut-il montrer?
Enfin, ça nous renvoie même à ce qu'on peut voir nous-mêmes à la télévision, parfois.
Complètement.
Parfois même sur des JT ou parfois des choses qui sont très très choquantes.
Bien sûr, bien sûr. Après, la banalisation, avec la banalisation de la représentation de l'horreur, par exemple. Par exemple, quand Barker a écrit ça, je crois que c'était en 85-86, la pièce. Eh bien, effectivement, c'est pas le même temps qu'aujourd'hui, 2016, par exemple. Bien sûr que non.
84, j'ai sous les yeux.
84,
Scenes
voilà.
Scenes from an execution.
Ouais. Donc, du coup, ça, il y a un décalage aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la même époque, on n'est pas dans le même endroit. Et aujourd'hui, ce que pense Galaxia dans la pièce, qu'elle est censée représenter, penser, n'est pas forcément recevable de la même façon aujourd'hui, je dirais. En tout cas, ça ouvre le débat. C'est-à-dire,
vous pensez que c'est moins choquant aujourd'hui de voir ce genre d'image là qu'il y a peut-être une trentaine d'années?
Malheureusement, c'est terrifiant à dire, mais c'est juste que même à l'époque, on voyait des choses quand même. Mais là, c'est un flou ininterrompu. Il faut quand même être conscient de ça. C'est vraiment
à l'heure actuelle, là, on parle de Alep qui est en train de
tomber,
oui,
voilà.
En Syrie.
Ouais. Et moi, je peux pas m'empêcher de penser aussi, par exemple, la pièce s'ouvre sur les culs à la surface de l'eau, des cadavres en fait qui flottent comme ça, qui sont dans une barque dans l'eau, etc. Comment on peut pas ne pas penser évidemment aussi avec tout ce qui se passe, avec ces histoires d'embarcation dans la mer, avec les gens qui se noient dans la mer, etc. Évidemment que je pense que consciemment ou inconsciemment le spectateur, ça renvoie aussi, malheureusement, à une situation terrifiante que l'on voit d'une manière assez banale dans les journaux, sur Internet, avec tout le drame des migrants, etc., etc. Parce qu'on le, c'est, ça ne veut pas dire que c'est ça, mais c'est une autre forme de guerre, ça, en fait. En tout cas, ça en est la conséquence. Donc, évidemment, ça soulève des problématiques très 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 graves, très 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 importantes.
Et est-ce que vous pensez que la banalisation des images aujourd'hui fait que c'est peut-être accessible à un public peut-être plus jeune, et que peut-être ce public-là n'aurait pas pu le voir il y a quelques années, et qu'aujourd'hui il va pouvoir le voir parce qu'il a l'habitude déjà de voir certaines choses assez choquantes sur Internet?
La pièce, vous voulez dire?
Ouais,
la pièce ne montre rien, c'est ce que vous dites. Enfin, disons, elle évoque.
Ouais, elle évoque plutôt. Moi, je pense que la pièce, elle est vue par des lycéens, des étudiants, des gens de tous âges, et c'est ça qui est. Moi, je pense qu'il n'y a pas de, voilà. À part, je
pas de barrière pour vous, ça.
Je pense que quelqu'un, par exemple, de 12 ans ou 13 ans, c'est peut-être trop tôt. Mais à partir de, je crois qu'à partir de 14-15 ans, j'ai l'impression qu'on peut voir cette pièce, quoi. Il n'y a rien d'interdit ou je sais pas quoi, enfin de mais alors la langue est un peu c'est dense, c'est pas que c'est complexe, c'est que c'est dense. Et il faut, c'est pas qu'il faut s'accrocher, quoi. On se laisse porter par l'histoire, hein, de toute façon. Il y a vraiment une narration. Il y a une forme de narration. Donc, il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment comme dans un, ouais, c'est comme si on tourne un livre d'images, en fait. Et on nous raconte une histoire, quand même. Donc ça, pour le coup, c'est agréable. Voilà, je dirais.
Et cette histoire, quel en serait le point de vue de Carpetta? Enfin, je sais pas, je lance cette question pour parler peut-être plus précisément de votre personnage qui, c'est assez étrange, il apparaît tout de suite, hein, on vous voit, vous êtes la première personne qu'on voit sur scène, ouais. Et puis l'image qui est renvoyée, l'image donnée de lui du public, là j'ai sous les yeux la réplique d'Urgentino, le doge qui est un peu sévère, hein. Je me suis farouchement opposé à eux, aux autres cardinaux, j'ai dit qu'il était fini, Carpetta. Et il est fini, hein, n'est-ce pas, demande-t-il à Galaxia. La réplique reviendra un peu plus tard, totalement fini. Galaxia cherche à défendre, donc vous l'avez indiqué, son amant, son amoureux. Il n'a que 35 ans et Urgentino conclut avec cette phrase, donc il redit un peu plus loin. En aurait-il 17? Il est fini. Écoutez, je sais que les artistes font semblant de montrer, enfin bref. Ouais, donc ce personnage qui, il semble quand même un petit peu, même d'ailleurs, je crois que c'est Urgentino encore qui a ce terme également, de le plus médiocre des hommes, quelque chose comme ça, la plus grande des peintres. Et puis finalement, moi, j'ai beaucoup apprécié ce Carpetta, je ne souhaiterais nullement verser dans la flagornerie ou la flatterie. Enfin, il a une force et à la fin, il défend un peu ce tableau. Enfin, comment dire, il en pleure même, ouais, aussi. C'est très beau, ça, il n'y a aucune réplique.
C'est ça qui est très curieux chez Barker.
Il est bien, ce Carpetta.
Oui. Alors il est un peu tout. C'est-à-dire qu'il est lâche, il est fuyant, il est versatile. On ne sait pas à un moment donné sur quel pied il danse, quoi. Enfin, si je puis dire. Et de quel côté il se situe. Alors, il y a ce rapport passionnel avec elle, à la fois d'admiration.
Mais il est marié, hein, on l'a pas dit.
Ouais, il est marié, elle lui demande de quitter sa femme, etc. Et surtout devant le doge, devant l'État, devant l'institution, il baisse les bras, il baisse les armes et il accepte de remplacer Galaxia dans la peinture du tableau parce que ils la mettent en prison, hein. Et c'est lui qui prend sa place. Et c'est quand même son amante. Et là, il y a un truc vraiment...
Trahison ?
Ouais, une trahison. Il y a une trahison. Et en fait, ce qui fait qu'il y a un revirement, et c'est là où, c'est pour ça qu'on peut parler de versatile, c'est que il y a un revirement, et finalement, c'est parce qu'il va intercéder auprès du doge, que...
Urgentino.
Que c'est grâce à lui qu'elle va pouvoir sortir de prison, en fait. C'est clairement dit dans la pièce. C'est clairement dit. Et donc, à un moment donné, il exige du doge de la faire sortir de prison. Et il obtient gain de cause, quoi. Donc, c'est un personnage, quand même, même s'il y a le mépris, on le voit, le mépris de l'État pour ce personnage, et il a une force. Il a une force et surtout, il a, à la fin, quand il y a la représentation du tableau dans l'exposition, il est le seul à quitter l'endroit et à critiquer les artistes qui se critiquent entre eux et à dire aux gens, à ces gens-là, ça me dégoûte en fait. Et il quitte la place. Il a, à la fin, en tout cas, Barker donne de lui une image de conviction et en tout cas de d'affirmation et non pas de compromission, voilà. Il apparaît comme étant un cœur pur, quoi, quelque part. En tout cas, c'est ce qu'on entend, ce qu'on perçoit, quoi. Ça veut pas dire qu'il l'est comme ça, hein, mais et ils sont pas purs, hein, tous ces personnages-là. Ils sont, c'est ça qui fait leur attrait, quoi.
Voilà. Un grand intérêt, une grande complexité dans ces personnages. Voilà. Auditeurs, qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est vous dire, ben, allez voir cette pièce pour voir justement à quel degré on peut trouver, enfin du moins des choses qui plaisent sur n'importe quel plan, l'humain, le politique, le sexuel, le tu parlais de rapports de force, Isa, oui, il y a des rapports de force. Là, Urgentino, quand il est là, c'est curieux, il se veut amical, admirateur, dit-il à Galaxia, et puis enfin, c'est curieux parce que lui non plus n'est pas pour autant foncièrement mauvais, méchant, enfin c'est un tout qu'il faut aller voir au théâtre Célestin jusqu'au mercredi 7 décembre.
C'est vrai que j'ai insisté sur le personnage d'Urgentino qui est le doge de Venise, et là Barker a écrit une partition exceptionnelle parce qu'il a réussi à faire entendre toute la comment dirais-je, la rouerie, la manipulation politique, le machiavélisme et la force de l'État en tout cas du politique à cet endroit-là, c'est-à-dire avec tout le mépris qu'il peut y avoir, notamment vis-à-vis des artistes, avec une espèce de mépris matiné de condescendance. On les accepte, on les rétribue, et en même temps ils sont, ça montre aussi que les artistes peuvent être aussi peuvent faire flipper, peuvent être subversifs, mais il le dit à la fin, il le dit, mais bientôt votre toile n'aura plus aucun. Il y a une vraie réflexion sur l'art, hein, dans la pièce. Il y a une vraie réflexion sur la vanité, même artistique, et ça c'est très fort, je trouve, chez Barker.
Je vous relancerai volontiers la même chose qu'en début d'émission, mais vous parlez quoi? Vous parlez de l'actualité, la subversion? Ou alors vous parlez d'une pièce écrite en 85 et qui en plus porte sur des faits qui datent de 1500, ça se passe en 1571, c'est ça?
Ouais,
c'est un peu après la bataille. Beaucoup de choses, l'heure a totalement tourné, c'est terrible, on n'a même pas évoqué ce vent qui se lèvera entre le mardi 6 juin et le samedi 10.
Si il va se lever, mais en tout cas...
Mais bon, la pièce tourne en tout cas, on peut peut-être déjà la voir actuellement, non?
Elle est... Alors oui, elle va tourner, maintenant elle va tourner. Le vent se lève, donc c'est ce que le spectacle qu'on a fait avec ma compagnie, qui est coproduit par le Théâtre des Célestins, qui va venir à Lyon du 6 au 10 juin, donc c'est encore loin, mais proche aussi, et donc ça va tourner à partir de janvier 2017. Et vous pouvez le retrouver sur les sites des théâtres, notamment des Célestins.
On mettra le lien.
Ça va aller à Paris, à Nancy, à Toulouse. En banlieue parisienne aussi, à Toulon, enfin voilà, ça c'est, si vous allez sur ces sites-là, ben vous pouvez le... Alors voilà, là c'est une pièce totalement sur aujourd'hui et sur la parole politique et la parole c'est une interrogation sur la subversion et les insurrections. Le vent qui pourrait se lever ou ne pourrait pas se lever.
Et avec un feu d'artifice de texte. Pourquoi est-ce que j'emploie ce terme de feu d'artifice? Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, Pierre Paolo Pasolini, Debord, vous évoquiez encore
Debord, d'autres. Il y a Édouard Bond
aussi, donc plus ou moins l'ennemi de Howard Barker. Et puis j'emploie.
Il y a aussi, on n'en parle pas assez souvent, mais c'est central dans la pièce. C'est la première fois qu'une compagnie, mais j'insiste vraiment sur ça parce que c'est important. Met en scène des textes du Comité Invisible. Je ne sais pas si les gens connaissent un peu. Enfin, je pense qu'ils connaissent en général. Ce sont les gens qui sont publiés aux éditions de La Fabrique et qui sont. C'est intitulé aussi Tikkun, Comité Invisible. Ils ont écrit un texte en 2005 qui a été lu, qui a été beaucoup lu. Je pense par environ 750 000 lecteurs a eu ce livre qui s'intitulait L'insurrection qui vient, et ils ont réécrit en 2014 un texte à mon avis fondamental qui s'intitule À nos amis, qui est la suite, et où ils décrivent et où ils font le constat réel que les insurrections finalement sont venues réellement, et ils font la démonstration de où elles sont venues, comment et comment elles pourraient encore venir advenir, et ce sont des gens qui écrivent très très bien, et j'ai eu le désir tout de suite de mettre en scène ces paroles, ces textes qui parlent de la jeunesse, et comme j'ai eu la sensation que notre pays martyrisait symboliquement et physiquement la jeunesse, et quand un pays méprise sa jeunesse, et je pense que c'est la vérité, et je le dis haut et fort parce que je pense que c'est vrai, j'en ai eu la preuve, méprise fondamentalement sa jeunesse, même si elle dit le contraire. C'est nos gouvernants qui sont effectivement à cet endroit-là, bien sûr des menteurs, mais en plus des corrompus vraiment à un grand niveau, et ceux qui s'approchent et ce qui s'annonce d'ailleurs est pas fait pour nous rassurer, enfin je le dis d'une manière très libre. Eh bien, c'est une vraie interrogation sur la jeunesse. C'est pour ça que j'ai eu le désir de faire entendre ces paroles qui sont pour moi, qui font un grand bien, parce que c'est des gens de 30 ans qui écrivent. Ce sont les petits-fils de Guy Debord pour moi. Et ce serait vraiment bien que les gens puissent entendre ces paroles-là, parce que c'est très fort. Et justement, ça en dit long sur la façon dont on traite la jeunesse dans ce pays. C'est-à-dire qu'on les prend vraiment pour des cons.
Nous vous laissons dire cela et nous-mêmes, nous vous relaisserons dire cela un mercredi 7, non pas le 7 décembre, parce qu'il est trop proche, mais peut-être le 7 juin, mercredi 7 juin, puisque je crois que c'est un mardi 6 pour le début de cette pièce, Le Vent se lève. C'est très fort, ces propos, c'est très fort. Oui, mais ce qui était très fort également, c'est que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Isa, je te laisse dire une seconde quelque chose si tu le souhaites, mais moi, j'avais indiqué ce terme de feu d'artifice parce que je me suis permis ça en fond sonore. On a entendu l'oiseau de feu, et l'oiseau de feu, la fin de cette suite est assez. Ça part un peu dans un beau fortissimo, enfin du moins tout un tas d'instruments qui jouent. Ça va être donné ce samedi 3 décembre à l'auditorium et ça peut être un spectacle intéressant. Il y a des petits garçons qui iront. Enfin voilà, Isa, tu avais un truc politique encore à dire ou
Mon Dieu, 15h03 de la semaine prochaine, Stéphane Roche, il sera là. Il me l'a confirmé tout à l'heure au téléphone. Stéphane Roche sera là, donc là, producteur de cinéma lyonnais.
Eh ben,
à partir de 14h mercredi prochain.
Très bien, rendez-vous pris. David Ayala, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Beaucoup. Moi, je lance l'invitation, on va en parler à Magali. Il faut qu'on se revoie ce mercredi 7 juin. Nous parlions de Talbot, d'une exécution qui est donc donnée au Théâtre des Célestins. Et j'en reste là parce que 15h04, c'est pas possible. On a beaucoup trop mangé du blues des Canuts. Auditeurs, restez à l'écoute, surtout du blues des Canuts. Puis allez voir cette pièce au Théâtre des Célestins. Bonne fin d'après-midi à vous tous et à une prochaine fois. Au revoir tout le monde. Salut les invités, merci bien.
Salut.